On va commencer Bezrat Hashem notre premier cours sur le quatrième chapitre de Igaret Hatshuva. Alors, petit topo rapide, parce que là on va changer de cap dans le Tanya. Dans les chapitre 4, page 196. Dans les trois premiers chapitres, l'Admor HaZaken nous a fait un tour rapide pour expliquer qu'est-ce que la Teshuva.
4, oui, l'une 3, oui.
On est prêt? C'est bon? Donc, dans les trois premiers chapitres, on a expliqué la Teshuva sur le plan halakhique. On a expliqué qu'est-ce que la Teshuva, que la Teshuva c'est la décision d'arrêter la faute. On a expliqué aussi comment on arrive à la perfection de la Teshuva, par le regret, par Mechila. On a expliqué aussi dans chapitre 2, chapitre 3, comment, même si une fois qu'on a déjà fait une vraie Teshuva, lorsqu'on sent qu'on n'est pas encore chéri aux yeux d'Hachem comme avant, alors on va faire un jeûne qui va être remplacé après, enfin d'abord un sacrifice qui va être remplacé par le jeûne, qui va être remplacé par la tzedaka, etc. Mais là, dans le chapitre 4 de Igaret Hatshuva, on va changer de cap. Dans le sens que on va pas s'arrêter sur le côté technique de la Teshuva. On va rentrer dans les coulisses de la Teshuva. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'un juif fait Teshuva. Et vous allez voir, c'est passionnant. Seulement là, pour comprendre ce qu'on va développer aujourd'hui, on va devoir aller jusqu'au 12e chapitre. Donc là, on a un nouveau tronçon qui est passionnant, hein, vraiment. Ça veut dire 4, 5, 6, depuis du 4 jusqu'au 12. Bon, c'est pas très long, vous allez voir, c'est pas très long. Mais c'est extraordinaire parce que une fois qu'on a compris le comment de la Teshuva, maintenant on va rentrer dans le pourquoi. Comment on dit en français, le pourquoi du comment. Ça veut dire, on va essayer d'expliquer finalement comment ça fonctionne la Teshuva. Pas combien je jeûne, combien j'ai fait ci, combien j'ai fait ça. C'est les détails techniques. Ça, c'est comment tu fais. Je veux comprendre pourquoi c'est comme ça. Comment ça fonctionne? Comment ça se fait que quand j'ai fait une faute, je peux revenir? Comment ça se fait que quelqu'un d'autre m'a donné cette possibilité? Donc ça, c'est ce qu'on va développer à partir de maintenant. Alors, pour expliquer tout ça, on va devoir faire appel au Zohar. Donc là, je vous ai dit, on va passer à un autre cap. Hein. Jusqu'à présent, c'était relativement simple. Là, on va passer à un autre cap. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Si on a bien fait les trois premiers chapitres, le quatrième chapitre, on va passer à la quatrième. C'est comme dans la voiture. Celui qui veut passer directement à la quatrième, hein, Jacques, il est auto-école.
Il est vrai, il passe à la quatrième.
Celui qui est vrai, il passe à la quatrième.
Il cale.
S'il a un très 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 bon moteur, peut-être qu'avec la quatrième, il peut réussir à démarrer. S'il a un excellent moteur, peut-être, c'est possible.
Ouais, très d'accord. Bon embrayage, surtout.
Très bon embrayage, très bon moteur, très bon pilote, surtout. D'accord, nickel. Pas possible. Pas possible. Normalement, tu démarres avec la quatrième, tu cales. Donc là, nous aussi, celui qui avait voulu démarrer le Tania directement au chapitre 4, expliquer directement, ah, c'est quoi la Teshuva? Dis à ton baba, tu vas passer direct à la quatrième, tu vas caler. D'abord, on va t'expliquer le comment de la Teshuva, comment ça fonctionne. D'accord? C'est-à-dire, voilà, la Teshuva pour ci, à quoi ça sert, le regret des fautes, les jeûnes, etc. Là, on a fait le tour du propriétaire. Alors, une fois que tu as compris de quoi on parle, maintenant on va rentrer dans les coulisses. Ok. Alors, on va commencer chapitre 4. Mais oulam, cependant, kol hanal, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, ça veut dire à propos des jeûnes, et à propos de la tzedaka, et à propos de la teshuva, et du regret. Ou rak, ligmar, akaparo, miruk, anefesh, lachem. Tout ce qu'on a expliqué, les jeûnes, etc., on le dit, on le répète, c'est uniquement pour la perfection du pardon. Parce que la teshuva n'est pas les jeûnes. La teshuva, c'est pas la tzedaka. C'est quoi la teshuva? On l'a expliqué plusieurs fois. C'est une décision d'un instant de retourner vers Hachem. Ou l'âme, cependant, je passe directement, omnam cependant, je suis troisième paragraphe, à tralat mitzvah tachouva veikara, le début de la mitzvah de la teshuva et son fondement, la chouv el hachem behemet ou velev shalem, c'est de faire la teshuva, de revenir vers Hachem d'un cœur entier. Ça on l'a expliqué. Maintenant, pour comprendre ça, parce que c'est quand même dérangeant comme idée. Normalement, une personne qui a passé des années à fauter, il a fauté pendant des années.
Ouais.
Donc normalement, pour réparer des fautes des années, il faut des années pour réparer. Mmh. Au moins des années. Tu prends
au moins l'équivalent.
T'avais devant toi un vase. T'as pris le vase, tu l'as cassé. Combien de temps il faut pour le réparer?
Un certain temps.
Normalement, c'est impossible. Et même quand tu peux réparer, morceau après morceau. Or, on a expliqué que c'est vrai que l'aspect perfection de la teshuva, les jeûnes, la tzedaka, ça prend du temps. Effectivement, ça prend du temps. Mais la teshuva en soi, la teshuva elle-même, combien de temps elle dure?
Une
fraction de seconde.
Ouais.
Un instant. Comment c'est possible? Comment on peut comprendre ça? Que quelqu'un il fait le malin pendant des années, et en une seconde, il répare tout.
C'est trop facile.
C'est pas que c'est trop facile, c'est que ça marche pas comme ça dans la vie.
Il répare à condition que ce soit accompagné de tout
oui,
ça.
Oui, mais non, justement.
C'est sincère.
Faux.
Ouais, définitif. Ah
bon. Même si c'est pas accompagné.
Il y a la différence, monsieur Benita. Charles.
Ah, oui. D'accord.
Bonjour, dans mon nez. Bonjour.
Deux Charles.
Monsieur Charles.
Charles de Benita.
Oh, ah, voilà. Et Allah, c'est des Allah.
Il y a la différence entre la teshuvah elle-même et la perfection de la teshuvah. La teshuvah elle-même s'obtient en un instant. C'est ça, la teshuvah. La teshuvah, c'est un instant. Après, si tu veux la parfaire, tu veux la peaufiner, on te dit, bon, tu vas faire la teshuvah et les jeunes. D'accord? Tu vas faire les jeunes qui, eux, peuvent durer des semaines et des mois, etc. Et des années. Mais la teshuvah en soi dure un instant. Et c'est pour ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Comment tu peux expliquer qu'une personne passe des années à faire le malin et en un instant, il revient? Comment c'est possible? Je pourrais vous parler de Kippour, en vérité. Comment tu peux expliquer qu'une personne fait le malin toute l'année?
Parce que
et Kippour... Mais j'ai pas envie de parler de Kippour, parce que Kippour, ça dure un jour. La teshuvah ne dure même pas un jour. La teshuvah, tu peux la faire en une fraction de seconde. Comment c'est possible?
Le juif, il a l'étincelle.
Oui, je comprends. Mais d'un autre côté, tu comprends que quand tu passes des années à casser, comment ça fonctionne? Comment
c'est
tu peux
accompagné d'un retour, si tu parles, ou c'est sans retour?
Un vrai retour. Un retour qui n'est pas parfait, mais un retour sincère qui marche. Ça veut dire que, je vais être concret. Imaginez une personne qui a fait les 400 coups. Pas 400, 800, il en a fait. D'accord? D'accord? Ça veut dire qu'il en a pas raté une. Il n'en a pas raté une. Toutes les bêtises qu'il faut faire, il les a faites. Il arrive une fraction de seconde avant de quitter ce monde. Il est sur son lit de mort, il va mourir. Le docteur lui dit, monsieur, il vous reste une minute. D'accord? Et le gars, il est là, de tout son cœur, il dit à Dieu, je m'excuse, que je regrette.
Ça, c'est trop facile.
Il arrive en haut, qu'est-ce qu'on lui dit?
Il a fait teshuva.
Gan Eden. Comment il dit? Bien sûr. Comment il dit Rabbi Akiva? C'est écrit dans Pirkei Avot aussi. Veshuv yamecha lifte mitata. Reviens un jour avant ta mort.
Donc, tu sais pas quand.
Seulement, on dit Rabbi Akiva, le problème, c'est qu'on sait pas le jour auquel on va mourir. Donc, c'est extraordinaire. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que la teshuva a un pouvoir énorme. Être capable de réparer en une fraction de seconde une vie entière de fautes. Comment c'est possible? C'est pas logique. Normalement, la logique impose que la réparation doit durer beaucoup plus de temps que la brisure, que la casse.
Bien sûr.
C'est logique.
Bien sûr.
Même un enfant, il sait ça. Déchirer un dessin, ça prend une fraction de seconde. Faire un dessin, ça prend des heures. Un beau dessin, ça prend du temps. Et là, dans la tchouva, on a l'impression que c'est le contraire. On a l'impression que pour casser, tu peux prendre des années. Et pour réparer, en une fraction de seconde, tu répares. Donc là, si vous voulez, Admor HaZaken, il va commencer à nous donner son approche sur la tchouva qui est basée sur le Zohar. Là, on va faire appel au Zohar. Le Zohar va nous apprendre, mais on va prendre du temps pour comprendre ça. Comment en vérité, la teshuva permet à la personne de rentrer dans une dimension nouvelle. Une dimension dans laquelle les problèmes peuvent se régler en une seconde.
C'est beau, ça.
C'est magnifique. Vous imaginez si on avait comme ça cette solution? C'est-à-dire que le gars, tu vois, il arrive, il a 50 problèmes, on dit attends deux secondes. On rentre dans une nouvelle dimension et tous les problèmes sont automatiquement réglés.
1 milliard sur le compte.
Par exemple.
Ah bah, par exemple, oui. Bah,
oui, enfin,
tu vois, on te rajoute un 1 devant les 10 euros que j'avais.
Toujours.
C'est rien, t'as rajouté un 1.
Ouais.
Bon,
bon.
Vas-y,
bon.
C'est binaire,
alors,
ça, non?
Bon. Alors, on va expliquer.
C'est pas le monde que cherche Dieu.
Bon, non, je comprends.
Lui, oui.
Oublions, je parle pas de. Bon, lui, il est dans les Ferrari. Je parle pas de Ferrari. Je parle de choses concrètes.
Oui, tiens.
Je parle de choses concrètes. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une personne y passe des années à faire le malin et fait teshuvah en un instant? On dit que la teshuvah est cachère. Seulement après, on dit si tu veux mieux faire la teshuvah, tu prends les jeunes, tu prends tikkun, etc. Mais la teshuvah, il l'a obtenu en un instant. Comment c'est possible? On va expliquer.
Est-ce qu'il est sûr d'avoir obtenu? Ah, ma question.
Oui. Cette teshuvah est une teshuvah qui est valide.
Oui, mais enfin, il
a donné.
Cette teshuvah est valide dans le sens que c'est vrai qu'il n'est peut-être pas aussi chéri aux yeux d'Hachem qu'avant, mais son casier divin, on va appeler ça comme ça,
il est vierge,
ou vierge, ou en tout cas, on le ressortira pas. Il est classé sans suite.
Cold case.
Hein? Ouais. Comment on appelle ça?
Cold
case, ça classé sans suite.
Affaire non élucidée.
Voilà, c'est, ouais. Voilà.
On refait un
appel à la loi.
Hachem, tu comprends, t'as un gars qui a fait l'imbécile toute sa vie. Et après, il a une pensée de teshuvah, il dit Hachem, je reviens vers toi. Hachem, il dit ton dossier, il est clos. Comment tu peux expliquer ça?
Trop facile.
Ouais, mais enfin, ça incite aussi les gens.
C'est pas seulement que c'est trop facile.
En plus.
C'est pas seulement que c'est pas facile. C'est pas seulement que c'est trop facile. C'est que c'est pas logique. C'est pas logique.
C'est pas logique.
Alors, on y va. Oulam, cependant, Khazak, merci.
Donc.
Ahech, ech, le va'eretev. Ok, vous êtes avec moi ?
Oui.
Allez, vous avez mis vos ceintures ? On va décoller.
Allez, on va.
Donc je suis au milieu de la page 196. Pour expliquer tout ça, il est nécessaire d'expliquer clairement en s'étendant sur la question. Donc là, il nous faut plusieurs chapitres sur la question. En citant au préalable, qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Le Zohar te donne la définition du mot Teshuva. Tu sais quoi la Teshuva? Tashuv he. Alors, qu'est-ce que te dit le Zohar, Hazak? Tu dis c'est quoi la Teshuva? Tashuv ha, Teshuva. Si tu décomposes le mot Teshuva en deux, ça te donne Tashuv he. Le retour du he.
Et c'est Hachem.
Doucement. Doucement. C'est quoi le retour du hé? Il explique le Zohar. D'accord? Il dit, dans le nom d'Hachem, tu as deux lettres hé. Yud, ke, donc c'est un hé. Vav, et encore une fois un hé. Donc tu as deux lettres hé. Dit le Zohar, tu as le hé d'en haut et le hé d'en bas. On va tout expliquer, hein, je vous rassure. Et t'as le retour du hé d'en haut.
On trouve Shabbat.
T'as le retour du hé d'en haut. Et t'as le retour du hé d'en bas. Et c'est pour ça que par rapport à ça, on va développer. Tu as une teshuva de bas niveau, une teshuva de haut niveau. Donc là, à partir de maintenant, retenez ce terme. À partir du chapitre 4, on va développer toujours deux pistes. Tu auras toujours deux pistes. La teshuva de haut niveau, la teshuva de bas niveau. On va expliquer c'est quoi. On va expliquer. Et vous allez voir qu'on va s'identifier parfaitement à ça. Dans la teshuva que nous faisons constamment, on a la teshuva de bas niveau, la teshuva de haut niveau, qui correspond au hé d'en bas et hé d'en haut. On va expliquer. Bon, on fait une petite pause pour donner une bracha, hein, Shimon Razak. Il a amené de sa propre initiative. Il a amené.
Allez,
d'accord. Bon, maintenant il faut amener les verres.
Oui. Sauf l'alcool, il n'y a pas.
Pourquoi il n'y a pas?
C'est pas bon
là.
Et puis t'as
hein?
Pas
besoin.
Non, c'est juste d'air, prends.
Oui, au plus, il y en a. Bon. Mais tu sais, pas sur l'alcool.
Une bouteille. Vas-y, les Chaim.
Je suis réveillé, mais je suis arrivé.
C'est gros qui,
aussi. Là, ça va mieux, là.
Servez-vous, ça va, frère.
Quelle occasion? Il y a.
L'occasion du bon cœur.
Ah, d'accord.
On fait une petite pause.
Chacun. Tantôt, il faut donner un nom.
Ah,
pour la mispara.
Quelque chose.
Bah, à quelle occasion?
Comme ça, pour
le plaisir.
Hein? Pour le plaisir.
Pour Tania. C'est pour Tania. C'est pour Tania.
Il y en a un qui suit.
Allez,
Ami. Gobelet.
Bon appétit. Bon
Herbert bon. Léonard.
Eh ben, alors, oui, tout à fait. Pour dîner. Tu veux un verre, Marceau? Pourquoi tu fais chaque mois? Tiens.
Non, moi, quelques verres, s'il te plaît, Serge.
Tiens.
On va servir le rail. Allez.
Je te sers. Attends. Ah, Michel, je vous tiens mal la main, toi.
Tiens, fais passer les. Tiens.
C'est bon.
Moi, je vais là.
Tiens, qui veut du.
Le rail pour.
Tiens.
Merci.
Rail. Michel. Le
rail.
Ouais, quand il fait froid comme ça, il faut une petite vodka. Hein.
Ça dépend de quel rail.
Pour les problèmes russes, il faut les méthodes russes.
Le là, j'aime pas. Ouais,
moi aussi.
Allez.
Qui veut du coca?
Tiens. Tenez.
Non. Coca, Charles.
Qui veut, voilà. Là, la vodka.
Coca, personne comment?
Tiens, tenez, fais passer.
Excuse-moi, je prends ça. Qui veut ça? Toi, tu veux un peu de ça? Marcel, comme ça.
Voilà la vodka.
Fais passer.
Marcello!
Il vous a pris ou pas?
Je sais pas. Il m'a mis un
peu. Tu manges avec la vodka, c'est bon. Ça fait du bien. Ça, personne ne va rien.
Tout le monde a eu le Chaim ou pas?
Un peu,
Qui n'a pas eu le Chaim? Michael, t'as eu le Chaim?
Ouais,
c'est bon. Un noyer.
Allez.
Un noyer de vodka.
Un peu de Chaim.
Alors, chaque fois. Chaim.
Chaim.
Barou, Rada, chaque fois, les
gens. Tranquille à tout le monde.
Ok, on continue.
Tu peux plaisir, Marcel. Je te fais plaisir, Marcel.
Merci, Chaim, Chaim.
Putain, ça. C'est fort.
Ça réveille. Hum? Ça va réveiller, là. 37 minutes. Ok. Simon. Bon, déjà. Ok. Donc on a dit, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que la teshuva. Comment fonctionne la teshuva. Pour ça, on fait appel au Zohar. Le Zohar explique que le mot teshuva se décompose en deux mots. Teshuv, he. Revient le he. Le retour du he. Il y a le he d'en haut et le he d'en bas. Le premier he du nom d'Hachem et le deuxième he du nom d'Hachem. Et ça, ça va beaucoup nous aider dans la suite du cours. Aujourd'hui et les autres cours. Comprendre le fait qu'il y a deux catégories de teshuva. Il va donner un exemple tout de suite. Regardez. Vous vous rappelez, on avait parlé la semaine dernière et la semaine d'avant de la faute qui est très grave de la semence en vin.
Oui.
Ok. Maintenant, regardez ce que va dire le Zohar. Et vous allez voir comment la teshuva d'en haut va nous aider. On va lire tout de suite. Donc, je suis à la page 197. Hetata teshuva tata'a, et ila'a teshuva ila'a. Le he d'en bas est la teshuva d'en bas, le he d'en haut est la teshuva d'en haut. Vegam hachekatu bezohar akadosh bekset mekomot. Regardez ce qui est écrit dans le Zohar, dans quelques endroits. She'en teshuva mo'elet, que la teshuva est sans effet, je dis bien sans effet, les pogam berito, pour celui qui viole l'alliance, ou motzi zera levatale, qui émet de la semence en pure perte. A priori, vehu davar tamu ameod. Vous entendez ce que dit le Zohar? Est-ce que vous avez entendu ce que dit le Zohar? Le Zohar dit que normalement, celui qui émet de la semence en pure perte, il a aucune teshuva possible.
C'est mort.
Maintenant, a priori, ce que dit le Zohar, c'est en contradiction avec un principe de base qu'il y a dans la Torah, qui est que, vehu davar tamu ameod, shen lecha davar omed bifnei teshuva. Rien ne résiste à la teshuva. Va fuir avodazara. Et même si une personne, il a commis l'idolâtrie, même si une personne qui loue Arayot, une union illicite, dans tous les cas, il peut faire teshuva. Alors comment on peut dire que pour une faute comme la semence en pure perte, le Zohar te dit qu'il n'y a pas de teshuva possible. Quelle est l'explication? Ou pirej bereshit rochma. Pour ça, je suis en dernier paragraphe, sur ça, c'est expliqué dans Reshit rochma. C'est un livre très connu de Kabbalah et d'autres choses. Chez Kavanat al-Zohar, que l'intention du Zohar est la suivante. Chez Ein Mo'elet, Chuvatata Kim Chuvaila. Ce que le Zohar veut dire, c'est que, pour une faute, la faute de la semence en vin, la Teshuva de bas niveau ne marche pas, et que là, on est obligé de faire appel à la Teshuva de haut niveau. Donc vous voyez, c'est important de comprendre ça, c'est-à-dire de Teshuva de bas niveau et de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des fautes, pour la majorité des fautes, t'as une Teshuva de bas niveau ou de haut niveau, les deux ça marche. Il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais les deux marchent. Mais tu as des fautes pour lesquelles la teshuva de bas niveau ne marche pas. Il faut une teshuva de haut niveau. Pour l'instant, c'est des mots ce qu'on dit. C'est quoi une teshuva de bas niveau? Exactement. On fait que commencer.
D'accord.
Parce que là, on est en train d'expliquer comment fonctionne la teshuva. Et pour expliquer comment fonctionne la teshuva, encore une fois, on va rentrer dans les détails. Ok. Pour expliquer ça, on va tourner la page. Iné, les avinzot meat miser, pour comprendre ça un tant soit peu, tsarich les hakdim, mach et amevoir, mais ma kato me dit vrenazal. Donc là, la demoiselle Zaket, si vous voulez, il nous tarabuse de questions. Il nous montre en vérité qu'on n'a rien compris à la teshuva. D'abord, première question qu'on a sur la teshuva, comment ça fonctionne? Comment une personne a fauté des années, il fait teshuva en un instant, comment ça fonctionne? Après, apparemment, le Zohar parle d'une teshuva de bas niveau ou une teshuva de haut niveau. C'est quoi la teshuva de bas niveau? C'est quoi la teshuva de haut niveau? Autre question intéressante. Tsarik l'a dit, ma chemin voa, ma akatou me divri razal. Toute personne qui a déjà étudié la Torah, certainement a entendu parler de la mort qu'on appelle chayav karet. C'est quoi chayav karet? On dit qu'une personne qui a fait une certaine faute, il est retranché du peuple juif. Ça veut dire quoi? Shavara vera, shachayvim ala karet. Lorsqu'une personne transgresse une faute sur laquelle on est chayav karet, par exemple, il mange du Hametz à Pessah, ou par exemple, il mange à Kippour, ou par exemple, il a des relations avec sa femme qui est Nida. C'est des choses qui peuvent arriver, Chazé Shalom. Et bien, dans les cas comme ça, on est volontairement, évidemment, dans les cas comme ça, il est chayav karet. C'est quoi chayav karet? Retrancher du peuple juif, ça veut dire que normalement, il doit mourir avant 50 ans. Ah, attendez. Oui?
Et s'il le fait après 5 ans?
Ou bemitla, deux secondes. Ou bemitla bide shamaïm.
Extraordinaire.
Maramoha.
Il
attend 50 ans et il dit c'est bon, on y va.
L'heure à point.
Ok. Ou bemitla bide shamaïm. Donc il y a des cas dans la Torah où on dit que par exemple une personne, il va mourir. Il est chayav karet. Il mourrait avant 50 ans. Je ne veux pas vous angoisser, parce que justement, on va expliquer, on va poser la question. Il y a des cas où on est chayav mitabide shamaïm. On est passif de mort du ciel. Pas par, la terre ne peut pas rendre passif de mort pour ça. On est chayav mitabide shamaïm. Comme la faute de la semence en vin. Et ça, normalement, on devait mourir avant quand? La personne devait mourir avant quand? Kodem shishushana avant 60 ans. Que Hanania ben Azur en avait birmiyahu, comme c'est raconté dans l'histoire de Hanania ben Azur, le prophète, dans Jérémie. Que là-bas, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que il y avait un donc Hanania, d'accord, avait fait une fausse prophétie. Et comme il a fait une fausse prophétie, donc à ce moment-là, la punition qu'on lui avait donnée, c'est qu'on a dit toi, on va régler ton compte du ciel. Et il est mort avant ce soupin. Ok. Velif Amim, page suivante. Velif Amim, parfois, lorsqu'il y a la mort du ciel, Gab Mitab Deshamim Nifraim l'alter. Parfois, pour dans certains cas. Dieu n'attend pas 60 ans.
Direct sur place.
Il peut payer sur place. Que Moshe Matsinou be'er ve'onan, comme on a trouvé à propos de Er et Onan. Vous connaissez l'histoire de Er et Onan. Er et Onan, ils avaient des relations avec leur femme, mais à chaque fois, ils s'arrangeaient pour se retirer au dernier moment. Comme ça, d'accord, c'est assourd. Et eux, on dit qu'ils sont morts tout de suite. Ils sont morts avant 60 ans. Pourquoi? Parce que pour eux, à leur niveau, la faute était très grave. Donc ça veut dire quoi? Que normalement, il y a des fautes pour lesquelles la personne devrait mourir avant 50 ou 60 ans. Et pourtant. Va arrêter. Nimtsu Becholdor, il se trouve dans chaque génération. Kama avec Kamech avec Kritatumitot, de nombreux individus qui sont coupables de fautes passives de retranchement, ou de mort par le ciel. Verichu Yemem Ushlotem Anaimi, mais que pourtant, ils vécurent dans les délices des jours et des années prolongées. Ah. Avec la Ferrari, avec tout ce que tu veux. Hein, c'est ta question, ça. Donc c'est ton parent. Ouais. Donc en vérité, on comprend que ça nous dépasse. Oui. Parce que d'un côté, tu as une personne qui fait le malin pendant toute sa vie, et il fait teshuva un instant avant de mourir. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il a fait teshuva. Teshuva est bonne. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? D'un autre côté, on te dit qu'il y a la teshuva d'en haut, la teshuva d'en bas, et qu'il y a certaines fois pour lesquelles la teshuva d'en bas ne marche pas, il faut la teshuva d'en haut. Mais c'est quoi la teshuva d'en haut? C'est quoi la teshuva d'en bas? Deuxièmement. Troisièmement, apparemment, dans ton système, tu me dis qu'il y a des fautes pour lesquelles si on n'a pas fait teshuva, la personne devrait mourir avant 50, 60 ans. Dans les faits, on le voit pas. Sur le terrain, c'est pas ce qui se passe. Donc le système ne marche pas, donc il y a un problème. Comment ça fonctionne? Donc là, vous voyez encore une fois, on n'est pas en train de poser la question comment fait Teshuva. On rentre dans les coulisses pour comprendre comment ça marche. Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Là, on fait que poser les questions. Pour répondre à ces questions, il faut qu'on revienne à la création du monde. Oui, je comprends, mais une seconde. Pour répondre à la question,
merci,
à votre taille, vous voyez, c'est les questions qu'on pose, je suppose que M. Benita, c'est bizarre, M. Benita, il ne parle pas, mais les questions qu'on pose, c'est les questions existentielles. Ça veut dire que finalement, le point principal de toutes ces questions, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre comment fonctionne la teshuva.
Oui,
tu me dis, écoute, tu fais ça, ça repart. Je crois à Hachem sur parole, je n'ai pas de problème, tu me dis, fais ça, je fais ça. Après, je veux comprendre, je dis, mais attends, mais pourquoi ça marcherait? Où est la logique? Où est le bon sens? Pourquoi ça marcherait? Le gars, il fait n'importe quoi pendant toute sa vie. Après, et en plus, des fois, on voit que ça marche pas. T'as des gens qui font des bêtises toute leur vie. Ils habitent dans des lofts, ils font des bêtises, je sais pas quoi. Ils vivent jusqu'à 120 ans.
Ouais, moi, ça m'arrange de ne pas chercher ni pourquoi ni comment. Hein? J'ai la teshuva et la tshuva, hein, c'est terminé. Hein. Qu'est-ce que je vais me casser la tête?
Mais pourquoi?
Pourquoi pas? L'objectif, c'est d'obtenir la teshuva. À partir du moment où on me dit, voilà, tu bouges ça, tu as la teshuva, pourquoi je vais aller chercher les complications?
Je prends
ce qu'il y a.
D'accord, mais
je prends au premier degré.
Je comprends très bien ce que vous dites, M. Benita. C'est bon, le Tania.
Rabbeinu, anoten le rachara qui le chato. Il ne faut pas chercher si celui-là, il a fait ça.
Je comprends, mais je vais réexpliquer sa question,
oui.
M. Benita.
Oui, bon, pas...
La relation qu'on a avec Dieu, c'est pas la relation qu'on a avec la justice. Dans la relation que vous avez avec la justice, vous ou quelqu'un d'autre, d'accord? Si tu as un problème, imaginez quelqu'un qui a fait quelque chose, il a fait une bêtise, il a un problème. Et qu'il y a un avocat qui lui dit, écoute, j'ai une façon de t'acquitter. Peu importe si tu es en vérité, t'es quitte ou pas, on n'en a rien à faire. J'ai une façon de t'acquitter, j'ai une faille, j'ai quelque chose. Tu la prends ou tu la prends pas?
Je la prends.
Bien sûr que je la prends. Pourquoi? Parce que la relation que j'ai avec la justice, c'est pas une relation de vérité. C'est une relation de tu me punis ou tu me punis pas. Donc si tu m'as été plus fort que moi, tu me punis, bah tant pis pour moi. Si j'ai une façon d'être plus fort que toi et de passer entre les mailles, bah, je serai plus fort que toi. C'est la relation qu'on a avec la justice. La relation qu'on a avec Hachem n'est pas comme ça. C'est pas une relation comme on a avec un juge. De dire j'ai trouvé une faille, alors. Vous comprenez, quand un avocat il vient, il défend un dossier. L'avocat il n'est pas en train de dire que ce monsieur est un tzaddique. L'avocat il dit moi j'ai trouvé une façon de le défendre. Peu importe ce que je pense de lui. C'est un clochard, c'est ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Mais moi je trouve une façon de le défendre. Donc si vous voulez, si on avait arrêté le Tania et Igaret HaTshuva au chapitre 3, on aurait dit comme vous dites, effectivement, on aurait dit écoute, qu'est-ce que t'en as à faire ? Dieu il te dit que si t'as fauté toute ta vie, et que tu veux te demander un instant, ça marche. Prends ! Pose pas de questions, prends, on te donne, prends, n'est-ce pas ? Seulement là, à partir du chapitre 4, l'Admor HaZaken nous dit, la Chassidoute nous a toujours appris à être authentique, à être vrai. Alors bien sûr que je vais faire teshuva en un instant, et que je ferai ce que tu me demandes et je ferai teshuva. Mais après, ma conscience me travaille. Je dis, mais comment ça marche ? Pourquoi ça marcherait ? Quelle est la logique ? Je fais le malin, je blesse quelqu'un pendant des années, et après je lui fais un sourire et tout part. Même si le sourire est sincère, mais ça marche pas comme ça, c'est pas logique. Donc, ma conscience me travaille, qu'est-ce que je réponds à ma conscience ? Quand tu es devant un juge, ta conscience, il la met de côté. Enfin, j'espère, normalement, ça ne devrait pas être comme ça, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire, la conscience dit, écoute, moi, je veux savoir, acquitter, pas acquitter. Après, comment il a dit, comment vous avez dit, les dossiers classés sans suite, comment vous avez fait ça ?
Cold case.
D'accord ?
Élucidé, en fait.
Voilà. Mais avec Hachem, on n'est pas comme ça. Avec Hachem, moi, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre pourquoi Hachem, il me dit que quand tu fais une erreur, en une seconde, tu peux la réparer. Et pourquoi sur le terrain, on ne voit pas forcément que ça marche comme ça devrait marcher ? Normalement, le système devrait être sans faille. Dans le sens que celui qui a fauté, on a dit qu'il doit mourir, il doit mourir. Je vais aller plus loin que ça, je vais donner un bâton pour me frapper là, d'accord ? Lorsque par exemple la Torah te dit dans le schéma, qu'on va lire tout à l'heure, elle te dit, si vous écoutez mes mitzvot, il y aura la pluie qui descendra, c'est-à-dire qu'il y aura la parnassa. Si vous n'écoutez pas mes mitzvot, le ciel s'arrêtera, c'est une image, et il n'y aura pas la parnassa. Ça veut dire que normalement, il doit avoir une corrélation parfaite entre mes actes et ma parnassa. Dans les faits, dans la vie de tous les jours, on ne le voit pas. On a des gens, alors c'est vrai que des fois, Hachem nous envoie des appels de phare, mais de l'autre côté, on a des gens qui ne sont pas du tout religieux, qui gagnent très bien leur vie, et des gens, d'accord, qui sont très religieux, d'accord, et qui pourtant, souffrent, galèrent dans la vie. Pourquoi ?
Cette situation,
donc c'est pas cohérent.
Elle est valable.
Parce que normalement, non mais je comprends, ça, si tu me dis que tu as un système qui marche, que Hachem te dit, tu fais, tu auras, tu fais pas, tu auras pas, pourquoi parfois ceux qui font n'ont pas, et ceux qui font pas ont ? C'est ça la question qui pose.
Très bonne question.
C'est une question existentielle, ça. Donc, pour répondre à cette question, pour répondre comment des gens peuvent faire les truands pendant des années et tout réparer en une seconde, et que d'un autre côté, parfois, cette seconde, on ne l'a pas, on n'arrive pas à réparer, il faut comprendre qu'est-ce que la Teshuvah. Je disais que pour comprendre qu'est-ce que la Teshuvah, il faut revenir à la création du monde. On va revenir maintenant à la création du monde. On va voir comment Dieu a créé l'homme. Qu'est-ce qu'il a mis dans l'homme? Ensuite, qu'est-ce qu'il a rajouté dans le peuple juif? Qu'est-ce qu'il a rajouté à la Neshama? Et progressivement, vous allez voir, c'est un puzzle magnifique qu'on va construire. Plus on va construire, et plus on va comprendre comment fonctionne la Teshuvah. Et pourquoi la Teshuvah peut s'obtenir en un instant. Mais ça, on ne peut pas donner la réponse tout de suite. Il faut qu'on développe. Alors, on y va. Ah, Aïnian Yuvan. Donc là, on a fait que poser des questions. Pour mettre en place. Ah, Aïnian Yuvan, on comprendra la chose. Api Mashikatu, selon le passage qui est écrit. Qui relèque Hachem Amo. Il y a un pasouk intéressant, un verset, le Chumash Dvarim, Parasha Azinu, verset très bizarre, qui dit « Ki chelek Hashem amo » car c'est une part de Dieu, son peuple. Que le peuple juif est une part, une parcelle d'Hachem. Comment vous comprenez ce verset ?
Par la neshama divine, la parcelle.
Ça veut dire que ma neshama. Attendez, ça veut dire quoi? Encore une fois, on revient à la création du monde. Qu'est-ce qui se passe à la création du monde? On te dit que Akadosh Baruch Hu, il a insufflé une âme. Mais c'est quoi cette neshama? Apparemment, le Ham Israël, c'est quoi cette neshama? C'est quoi le Ham Israël? Le Ham Israël est une partie de Dieu. Partie de Dieu. Donc ça veut dire que la neshama est un dieu en vérité. C'est le texte qui le dit. Le texte dit dans la parasha Azinu qui relèque Hachem Amo. Accrochez-vous, on va décoller, mais vous allez voir.
Elle n'est pas dieu, elle est relèque.
Oui, mais Monsieur Béni, je comprends très bien votre question. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que une partie de l'essence, c'est tout. Parce que Dieu est indivisible. Donc, si tu as une partie de l'essence, tu as tout.
Alors, s'il est indivisible, comment il a divisé?
Il n'a pas divisé.
Mais si, puisqu'il me donne une parcelle.
C'est justement ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas divisé. Donc apparemment, mon âme, c'est l'essence divine. C'est l'essence divine même. Je continue. Là, en fait, où il veut nous amener ? Il veut essayer de nous expliquer la puissance de la Neshama. Une fois qu'on aura compris la puissance de la Neshama, on aura compris la puissance du Neshama qui fait Tshuva. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour reprendre l'exemple, on a devant ma serre, je grand pilote, d'accord ? C'est-à-dire, tu poses des questions de comment ça marche, comment ça marche, pourquoi ça tourne, etc. On dit, avant d'expliquer qui est le pilote, on va d'abord expliquer quel moteur tu as ici. Tu comprends ? On va t'expliquer le moteur tu as ici. Grand moteur. Hein ? Un V12, hein. Une fois qu'on a compris le moteur, après on va te parler du pilote, et après on va t'expliquer pourquoi, quand t'as la combinaison de tel moteur et de tel pilote, en un coup d'accélérateur, il met tout le monde sur le carreau. C'est ça la chouva. Et il faut qu'on développe ça.
Comment la Neshama peut arrêter dans un corps qu'un type, il fait rien,
ouais. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais voilà la direction qu'on est en train de prendre.
On a fait l'œuf avec la poule. L'œuf vient de la poule.
Oui.
Et alors, ça veut dire que quand elle va grandir, elle va devenir comme la poule. Mais c'est pas essentiellement, c'est une partie.
Oui,
de la
mais
poule
je comprends. Mais
qui grandit et qui va se transformer.
Je comprends. Mais si je vous dis que je suis une partie de Dieu, c'est que je suis Dieu.
Mais on fait partie. Une partie en nous, mais qui appartient à Dieu. C'est ce que je veux dire. Il nous envoie quelque chose qui est développé.
Mais Dieu est indivisible. Donc Dieu, y a pas un morceau de Dieu. Donc si je suis une partie de Dieu, c'est-à-dire que je suis Dieu. Bon, mais on va y arriver. Pour l'instant, vous voyez, j'ai mis de côté, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai mis de côté la Teshuvah. Je parle plus de Teshuvah maintenant. Parce que on a bien vu que la Teshuvah, on patauge complètement, on comprend rien à la Teshuvah. Donc pour comprendre ce que c'est la Teshuvah, on va d'abord analyser l'âme juive. Qu'est-ce que l'âme juive ? Une fois qu'on aura compris qu'est-ce que l'âme juive, on va définir qu'est-ce que la Teshuvah et qu'est-ce qu'une âme juive qui fait Teshuvah. Et là, on va comprendre que quand une âme juive fait Teshuvah, c'est un cocktail qui change tout en une seconde. Mais mettons de côté la Teshuvah. Pour l'instant, on va parler de l'âme juive. Donc l'âme juive, déjà, c'est une partie de Dieu. Je continue. Kedirtiv, comme il est écrit, et là on revient à Bereshit, Vaipar Beapav Nishmat Chaim. Il est écrit, dans la paracha Bereshit, que Dieu a insufflé dans ses narines Nishmat Chaim, une âme de vie. Il a insufflé dans ses narines une âme de vie. Sur ça, le Zohar, il pose la question, quelle est la différence entre souffler et insuffler ? Certainement que les plus anciens du cours de Tania se rappellent, on avait expliqué ça dans le chapitre 2 du Tania, ça remonte quand même un bout de temps, quelques années. La différence entre souffler et insuffler. La différence, c'est que souffler, c'est un souffle qui provient de la partie haute de mon corps, qui ne me vide pas, qui vient pas de la partie la plus profonde de moi. Alors que insuffler, quand tu insuffles, quand tu fais du bouche à bouche, quand tu vas jouer de la musique par exemple, etc., tu vas jouer un instrument de musique, c'est quelque chose qui vient du plus profond de toi. Et c'est pour ça que ça te fatigue beaucoup plus. C'est-à-dire parler, par exemple. Là, je suis en train de vous parler. Ça fait trois quarts d'heure que je vous parle. D'accord ? Voilà. Ça me fatigue pas ? Pourquoi ça me fatigue pas ?
Souffler.
Parce que je suis en train de souffler. Pourtant, je me mets devant vous. Je souffle. Mais c'est un souffle. Je ne m'insuffle pas. Par contre, imaginez que je devais maintenant réanimer quelqu'un, bouche à bouche, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de quelques secondes, je suis essoufflé. Pourtant, quelle est la différence ? C'est pas seulement une question de quantité que là j'ai déployé. Non, justement.
Non.
C'est pas seulement une question de quantité.
Non, l'intensité.
C'est une question exactement d'intensité. Que quand j'insuffle, je m'excuse du terme, mais je vide mes tripes. Je donne ce que j'ai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour toutes les créatures, à part la Neshama, il est écrit que Dieu a parlé. Dieu a dit la lumière soit, la lumière fut. Dieu a dit. Donc c'est de la parole. Mais dès qu'on parle de la Neshama, on parle plus de parole. On dit que Dieu a insufflé dans les narines d'Adam une âme de vie. Prends le terme insufflé. On dit pas, il a parlé, c'est tout, comme d'habitude. Dieu, il parle. Kihu amar vayei. Dieu, il parle, et ça, c'est secret, c'est secret. La seule créature pour laquelle Hachem emploie le terme insufflé, c'est la Neshama, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que toutes les autres créatures, Kaviachol, Dieu ne s'est pas investi dedans. C'est comme un souffle. Ça veut dire que, bien sûr, il a créé, c'est lui qui a créé. Mais c'est pas investi, c'est pas la profondeur.
Ça fait le souffle, là.
Par contre, la Neshama, quand Dieu a créé la Neshama, là, Hachem,
il a insufflé.
Alors évidemment, Dieu n'insuffle pas. Ouais, c'est des images, tout ça. C'est des images qu'on nous explique, parce que comme ça, c'est une image que l'être humain comprend. Il comprend la différence entre souffler et insuffler. C'est une image que le texte utilise pour te faire comprendre que lorsque Dieu a créé l'âme d'Israël, il s'est investi complètement. Donc lorsqu'on te dit que l'âme d'Israël est une partie intégrante de Dieu, Ça veut dire que Dieu s'est investi à 100% dedans.
Mais pourquoi que d'Israël? Hein? Pas que d'Israël, on parle du premier homme.
Oui, mais je comprends. C'est une bonne question. Mais il faut savoir que dans le premier homme, l'aneshama, on parle de l'aneshama d'Israël telle qu'elle était incluse chez Adam Harishon. Parce qu'après Adam Harishon, c'est vrai qu'il a ouvert plusieurs ramifications. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie d'Adam qui a en elle l'aneshama d'Israël.
D'accord?
Non, les autres n'auront pas l'aneshama.
Non, mais la Adam Harishon, c'est l'origine de toutes les
nations. Oui, mais d'Adam Harishon, voilà, c'est l'origine de tout. Donc, c'est l'origine de toute la ramification. Ouais.
Ok, mais on a tout, enfin, le monde entier a hérité de la part divine, juif ou pas juif. Sinon, il y aurait que... c'est autre chose. Sinon, il ne serait pas vivant.
Part divine, oui. Mais l'âme divine, non.
Oui. Alors, ils n'ont pas d'âme, alors ça veut dire les goïms?
Non, ils n'ont pas d'âme.
Non, non. J'ai pas dit ça. Bien sûr qu'ils ont une âme. Ils n'ont pas une âme divine comme nous. Ils n'ont pas une âme divine qui est une partie intégrante de Dieu comme nous. Ça, c'est que nous. Mais ça nous engage à beaucoup de choses. Alors, il dit maintenant, il ouvre une parenthèse. Comme on dit dans le Higdal. Bien que Dieu n'ait pas d'apparence corporelle. Mais qu'est-ce que tu dis que Dieu, il a soufflé, il a insufflé, etc. Dieu n'a pas d'apparence corporelle. On vient l'expliquer. Ar, cependant, Dibra Torah, Kilshon ne Adam. La Torah parle dans le langage des hommes. Kikmosh yesh efresh vevdel gadol. De la même façon qu'il y a une grande différence. Shalom, ben Adam atarton. C'est ce que nous dit. Ne me regardez pas, regardez le texte. Au milieu de la page 200. Kikmosh yesh, au milieu de la page 200. 200 Zerges.
Oui, 200.
Non, t'es pas à la page 200.
Si, si, on.
Hazak.
Kikmosh yesh.
Ah, Hazak.
Fouj, afarosh.
Voilà. De la même façon qu'il y a une grande différence qui existe chez l'homme, Alderech Machal, entre l'air expiré par sa bouche quand il parle, les Hevel Ayosel et Denefira, à l'air expulsé en soufflant, en insufflant, Shebeyot et Mediburo, l'air expiré par la parole, Meloubash Bokoar Vechayut Pat Misver. Revêt une force, une vitalité très tenue. Quand je parle, il y a une vitalité, mais c'est un filet d'énergie. C'est pour ça que ça me fatigue pas. Vauprinat, ritsoniyut, mamash, achaya, shebekirbo, minefesh, achaya, shebekirbo. Et ça, ça n'est que vraiment une partie infime de l'âme de vie qui est en moi. Aval, beyotse, mikoho, bekoach, anofer, de mitoho, nafar. Mais quand j'expire de l'air, j'expire, ça veut dire, voilà, j'insuffle. D'accord. Mais l'oubash boko avec un optimisme, puis prenez la tefeshachaya. J'investis en ça une force et une vitalité intérieure de l'âme de vie. Kacha mamash. Regardez, c'est très fort ce qu'il va dire.
201.
Kacha mamash. Exactement comme cela. Alderech Machal par analogie. Hamavdi l'avdalot l'enquête. Évidemment, avec l'infini séparation, parce qu'on va pas comparer Dieu à la parole. Mais c'est un exemple qui est magnifique. Yesh efresh atsu me'od lemala. Il y a une immense différence là-haut. Ben Kolz va Shamaim. Entre, d'un côté, d'une part, toutes les armées du ciel. Va Filo Amalachim. Et même les anges. Shenivreum Aïliyesh, qui ont été créés ex nihilo. Vechayim, Vechayamim, Prinat, Rissinoï, Tachayut, Vachef, Hashem, Hashper, Tsevorou, Lorayot, Alamot. Tout ce que Dieu a créé, à part l'âme d'Israël, tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Ça veut dire, la terre, la lune, les arbres, les anges, le Gan Eden, tout, sauf les âmes d'Israël.
Et l'homme.
Tout. L'homme aussi, d'accord? Sauf les âmes d'Israël, a été créé par Ruach Piv, par le souffle de la parole d'Hachem. Ça veut dire que c'est une quantité infime d'énergie, c'est un filet d'énergie. Ça, c'est d'une part. D'accord? On prie Nazo, Nikret. Bechem, Ruach Piv, Adech Machal, que Moshe Katou, vous priez Ruach Piv, quand c'est va, vous prenez la Trayout, etc. Je passe en bas de la page. Uben, Mishmat Adam. D'autre part. Donc, d'une part, tu as toutes les armées célestes, tu as toutes les armées terrestres, tu as toutes les créatures, etc., qui ont été créées par une quantité infime d'énergie. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu as? Tu as l'âme d'Israël. Mishmat Adam. Qui, elle, est dérivée initialement de l'aspect intérieur de la vitalité et de l'influx que Kadosh Baruch Hu nous donne, que Moshe Katou, comme il est écrit, va y par, comme il est écrit, que Dieu a insufflé une chose. Donc, c'est-à-dire que là, on commence à comprendre déjà. D'accord? J'accélère un peu parce qu'on va développer après. Là, on commence à comprendre la puissance de la Neshama qui est en nous. ça veut dire que c'est une neshama, si vous voulez, qui est plus fort que tous les anges. Vous imaginez ce que je suis en train de dire là ?
On doit être reconnaissant après.
Oui, c'est-à-dire qu'imaginez-vous les plus grands anges. Vous savez ce que dit la Gemara ? La Gemara a dit qu'il y a des myriades, de myriades, de myriades, de myriades d'anges, et qu'on ne peut même pas les compter. On te dit tous ces anges-là, et tout ce que tu veux, et toute la terre, et toute la planète, et tout ça, et tout ça, etc. C'est rien devant l'âme d'un juif. Pourquoi ? Parce que tout le reste de la nature, tout le reste même des anges, etc., que Dieu a créé, c'est seulement une création infime. C'est un souffle. Alors que là, lorsque Dieu l'a créé Adam Arishon, la Neshama d'Adam Arishon, lorsqu'il va insuffler la Neshama, Dieu il s'est mis en lui. Et c'est la seule fois où on dit que Dieu il s'est mis. Pas pour le soleil, pas pour la lune, pas pour les étoiles. Pourtant, c'est rien. Pourtant, tu t'imagines, tu vois la force du soleil. Le soleil, il se fait voir en ce moment, le soleil. Vous avez vu, tout le soleil grand comme ça, etc. Tu dis, le soleil, c'est une puissance extraordinaire. C'est tous les astres que tu veux, toutes les galaxies. On envoie des sondes aujourd'hui, on a des sondes qu'on a envoyées depuis 30 ans, ils ne sont pas revenus encore. En tournée, c'est sans fin, l'espace, l'univers est sans fin. On te dit, tout cet univers, tous les malachines, tout le, etc., c'est rien devant un neshama, devant un neshama d'un juif. Aussi mécréant soit-il.
Ah.
Ça ne change rien. Il a enlevé un neshama. Il est né avec la Neshama.
Mais Rachat, il
bah oui.
Il a quand même, malgré tout. Oui. Hein. Donc, Dieu, il a cette Neshama, finalement. Il adore cette Neshama.
Bien sûr, mais c'est...
Même s'il fait, comme tu dis...
C'est pas seulement qu'il adore, c'est que c'est lui.
Cet homme-là qui a cette Neshama,
oui.
Il s'est converti. Qu'est-ce qu'elle devient, sa Neshama?
Ça change rien, il reste juste.
On
ne
peut pas se convertir.
Lui et l'eau est incompatible. Ça ne se mélange pas.
Il garde sa Neshama telle qu'elle.
Oui.
Je vais raconter une blague. Une fois, il y a un juif qui voulait se convertir à l'islam. Alors, il est parti voir l'imam, etc. L'imam lui a dit, bon, qu'on accepte ta conversion, mais à condition, tu sais, chez nous, on n'a pas le droit au vin. Donc, chez vous, on n'a pas le droit au vin. Le vin. On n'a pas le droit au vin chez nous. Et à part ça, il faut que tu arrêtes aussi la dafina. La dafina du Shabbat, faut arrêter. Parce que c'est un plat juif. Maintenant, t'es plus juif, t'es rien d'être juif. Alors, il dit, y a pas de problème, j'accepte. Donc, il n'y a pas de problème. Plus de vin et plus de dafina. C'est une blague, hein. L'imam, il envoie un espion vendredi pour sentir les odeurs autour de la maison juive, pour voir est-ce que ça sent la dafina. Et il voit, ça sent la dafina. Ah, il a dit, bon, il a peut-être pas encore mangé, sa femme, etc. Il a dit, j'attends, on va attraper en flagrant délit, il attend. Shabbat après-midi, voilà, l'autre, il est là en train de s'éclater sur la dafina. Donc, il ouvre la porte, il fracasse la porte. Il dit, on t'a attrapé en train de manger la dafina, comment c'est possible? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, j'ai fait comme vous. Si vous versez de l'eau, etc., vous dites, il est pur. Alors, moi, j'ai pris la dafina, j'ai dit, c'est du poisson, j'ai mangé. Ça veut dire, il voulait dire par là, hein. Ouais, évidemment. C'est n'importe quoi. D'accord. Et aussi, la même blague qui existe avec les chrétiens aussi. C'est n'importe quoi. Ça marche pas. Un juif, il a beau dire. Non, attendez. Néanmoins, c'est écrit qu'un juif qui s'est converti, tu le préserves à une autre religion, d'accord, il doit quand même aller au mikvé. C'est un rituel. Il doit aller au mikvé, etc., pour revenir. Mais il a toujours été juif. Vous savez ce que c'est juif? Juif, c'est comme, par exemple, quelqu'un, hein, c'est comme en vérité la relation entre un père et son fils. Est-ce qu'un fils peut décider d'arrêter d'être le fils de son père?
Impossible.
Même si son père est un meurtrier, Dieu préserve.
Oui, oui.
Même si son père l'a martyrisé, tout ce que tu veux. Est-ce que le fils peut dire je coupe les ponts avec toi? Le fils peut tuer le père, Dieu préserve. Mais est-ce que le fils peut dire à son père tu n'es plus mon père? Il peut lui dire qu'il n'est plus mon père, mais son père sera toujours son père.
Oui.
De la même façon, Akadosh Baruch Hu, Avinu Malkenu, Avinu c'est notre père. Est-ce que tu peux dire à ton père, t'es plus mon père? Et est-ce que le père, il peut dire au fils, t'es plus mon fils aussi? Impossible.
Non plus.
On ne peut pas. On a une relation qui est indissociable.
Oui, mais quelque part, c'est une responsabilité incroyable.
Mais évidemment. Oui, évidemment, c'est une responsabilité
incroyable.
Hein? Évidemment.
On n'a toujours pas expliqué le...
Ah, on n'a rien expliqué encore.
Dans le hé du en haut.
Ah non, on est très loin, là. Là, on a ouvert le capot, là.
Ah, là.
Là, si tu veux, on a fait le tour du propriétaire, on a compris qu'on n'a pas compris. Maintenant, on ouvre le capot, donc on va dire, bon, alors on va voir qui a mis la première pièce du moteur. Ah, on va venir à la première vis.
Vidange.
Qui est, non, pas avant la vidange.
Quel programme?
Qui a mis la première vis? Comment ça s'est passé? Qui a mis la première vis?
Enzo.
Enzo ouais. Ferrari.
Alors
Enzo Ferrari.
Moi, je fais vraiment.
T'es classifié.
Vas-y, t'es...
Alors
t'es classifié. Ok. Ok, alors on avance. Alors, il dit... Donc, vous imaginez, tous les anges, tout, etc., c'est rien devant la neshama d'un homme. Maintenant, cette neshama... Attendez, mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est que tout ça, c'est idyllique, c'est magnifique, c'est bien beau. C'est bien beau si la neshama, elle était restée haute comme elle l'était. Ça veut dire qu'à la base, Dieu, il s'investit à 100% dans la neshama, les autres s'investissent moins. Donc, t'as une neshama qui est pleine de puissance et les autres qui ont moins de puissance. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette neshama, elle reste pas telle qu'elle est. Cette neshama, elle est descendue après. Elle descend sur terre. Et elle descend, 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 ce qu'il dit ici. Vaharkar et ensuite, Yarda, page 202. Vaharkar et ensuite, Yarda, Veseter Amadrega. Elle va descendre par les degrés de dissimulation. Ça veut dire que, eux, les anges, eux, si vous voulez, ils sont créés par Hachem, qui a une quantité infinie d'énergie, mais ils bougent pas, ils restent comme ils sont. Alors que la neshama, elle va descendre dans un corps, descendre, et elle va être, et c'est ta question, Michael, elle va être tributaire de ce corps. C'est-à-dire que lorsque le corps va se retrouver à faire des avérantes, eh ben, il va tirer avec lui la neshama dans des zones où elle n'a rien à faire là-bas. Là-bas, il y a un mot très dur qui dit la Morazaka dans le Tania, dans les chapitres précédents, le Kutamarim, il dit que celui qui fait une avéra, c'est comme si il prenait la tête du roi et qu'il la met dans les toilettes. Parce que, qu'est-ce que tu as en toi, tu as la neshama?
D'accord. Je suis d'accord avec ça.
Oui.
Ah. Le roi.
Oui.
C'est lui qui l'a créé.
Ah, je comprends.
Mais attends.
Il a créé quoi?
Il a créé le théâtre. Il a créé tout ce qui se passe avec la possibilité à l'homme de jouer à droite ou de jouer à gauche.
Donc le libre arbitre.
Non. Donc il y a le libre arbitre. C'est déjà le comment s'appelle le voile déjà sur la neshama.
Très bien. Ce qu'il dit ici.
Mais d'accord, mais quand tu l'amènes, en réalité tu l'amènes pas, c'est prévu comme ça.
Non, c'est pas prévu, c'est jamais prévu de fauter. Ah oui, c'est prévu que la faute sera possible, sera même conseillée, sera même poussée, ça, c'est possible, c'est effectivement. Mais Dieu.
Sinon, ça c'est quoi le sens? Sinon on crée des hommes sans le.
La question n'est pas là, la question est comme ça. On essaie de comprendre maintenant quel est l'objectif de la neshama. C'est-à-dire que la neshama, si elle était restée en haut, elle met à plat tout le monde. Mais le problème, c'est que la neshama est descendue et qu'elle est tributaire, encore une fois, elle est tributaire du corps. Ça veut dire que, prenez la neshama du bébé quand il était tout petit. Neshama pure, dans un corps pur, tout va bien. Maintenant, après, entre-temps, ce corps, il descend. Et la neshama, elle ne peut pas se dissocier. C'est écrit comme ça. Que chaque nuit, lorsqu'on va dormir, alors notre neshama, elle monte en haut. Et lorsqu'elle monte en haut... Eh ben, on lui passe un karcher, enfin, elle reprend un peu d'air, parce qu'elle a besoin d'un peu d'air. Un peu d'air spirituel, je parle évidemment. Et après, arrive le matin dans lequel nous, on veut se lever. Et quand tu veux te lever, Dieu dit à la neshama, il dit, allez, redescends. Elle pleure, elle n'a pas envie de redescendre. Pourquoi elle n'a pas envie de redescendre? Parce qu'elle dit, je sais ce qui m'attend en bas. Je sais ce qui m'attend. C'est le Goïnum qui m'attend en bas. Et à chaque fois, Hachem, il la rassure. Il lui dit, t'inquiète pas, aujourd'hui, il va réussir, aujourd'hui, il fera un effort. T'inquiète pas, essaye. C'est très difficile. Très difficile. Mais ça veut dire que là, on voit clairement la responsabilité, comme a dit M. Benita, que nous avons. On a une neshama, un outil tellement extraordinaire, à quel point on peut le faire tomber. Mais on a un outil extraordinaire. Donc là, l'Admor HaZaken, petit à petit, il nous prépare, en fait, à l'idée qu'on a en nous un potentiel qui n'a même pas été donné aux anges. Donc ce soir, vous allez rentrer chez vous à la maison, ta femme va dire, alors qu'est-ce que t'as appris? Tu vas lui dire, j'ai appris que je suis supérieur aux anges. Ah oui. Elle va dire, bon, on va t'amener à...
ça va.
Non, tu lui dis mieux encore. Tu lui dis, je suis supérieur à tous les anges réunis. Ah. Là, elle va dire...
Tout réuni, toute l'humanité.
Mais quand la neshama, elle monte, vous avez dit, la neshama, elle monte tous les soirs, elle fait son rapport. Mais pendant qu'elle est là-haut...
Non, je ne sais pas si on s'en rapporte.
Enfin, bon, c'est une image.
Elle fait le plein.
Ouais, très bien.
Elle va à la pompe.
Pendant qu'elle est en haut. Donc à ce moment-là, le corps qui est en bas, il n'a plus de neshama.
Il dort.
Il est mort.
Non.
S'il n'a pas la neshama, il est mort.
Il reste... La neshama, elle ne monte pas entièrement. Il n'y a qu'une partie. La partie principale de la neshama monte. Et elle laisse en veilleuse une petite partie de la neshama. De quoi faire tenir dans le sommeil.
Un câble en wifi.
Un petit 8 volts.
Donc, on a une neshama et cette neshama, elle va se subdiviser à l'intérieur du corps chaque soir.
C'est comme vous avez une télé à la maison.
Allah, vous avez, on veille, on veille.
Vous avez une télé à la maison?
Oui, on veille.
C'est pas bien. Bon,
vous avez, il y a TF1, TF2.
Bon, moi j'ai pas de télé à la maison, mais bon, peu importe, dans la télé. Vous avez remarqué que dans la télé, il y a un mode veille.
Ouais.
C'est quoi le mode veille? À quoi il sert le mode veille?
Ce petit bouton.
À ne pas consommer d'électricité, à consommer le moins possible.
Le moins possible.
Ça consomme toujours un tout petit peu.
Après, tu démarres au message, ouais.
Mais pourquoi on l'éteint pas? Parce que tu veux pas l'éteindre, parce que tu veux qu'elle soit prête, tu veux que dès que tu appuies sur la télécommande, ça démarre.
Voilà.
Or, pour qu'elle réagisse à la télécommande, il faut qu'elle soit allumée. Mais d'un autre côté, tu veux pas qu'elle consomme. Donc il y a un mode veille. De la même façon, la chamelle est en mode veille. Quand on dort, la chamelle est en mode veille. Elle est là, mais hein, c'est avec une quantité infinie. Quand tu te réveilles, c'est là que la chamelle repart en trombe. C'est quoi cette chamelle? C'est une force divine qui est extraordinaire. Une force divine qu'Hachem t'a donnée. Alors regardez, j'ai pas fini. Mais la reine, c'est énorme ce qu'il dit ici. Mais la reine, c'est pour cela.
C'est supérieur.
Mais la reine, c'est pour cela. Nikriu amalachim b'shem Elokim. C'est la raison pour laquelle les anges sont appelés dans le texte par le nom Elokim. Ça veut dire, là, le Morazaken, il veut insister sur la notion qu'il a expliquée. Que la différence entre la Neshama et les anges et le reste, c'est pas dans le dévoilement. C'est dans leur définition, ce qu'ils sont. Parce que, effectivement, si tu compares ma Neshama telle qu'elle est ici-bas sur Terre et un ange, maintenant, il est clair qu'un ange, il va beaucoup plus loin que moi. La question n'est pas sur ce que je fais, ce que je fais pas. La question est sur ce que je suis. Le potentiel que j'ai en moi. Une âme juive a un potentiel que tous les anges réunis n'ont pas. Le problème, c'est qu'elle ne le dévoile pas.
Parce qu'il est capable de faire, tu n'as pas le pouvoir des anges.
Un potentiel.
Mais il est capable.
Un potentiel. Un potentiel de relation avec Hachem que personne ne peut avoir.
Mais est-ce qu'il pourtant, on les appelle les Elohim.
Voilà, pourquoi on les appelle Elohim? Encore une fois, parce que c'est une expression de Dieu. Mais ça reste limité. Alors que nous, on a, si vous voulez, en nous, une bombe atomique.
Mais nous aussi, on est l'expression de Dieu.
Vous savez, c'est quoi le chidouche de l'arme atomique? Quelle est l'innovation de l'arme atomique? C'est qu'avant, quand on voulait faire une bombe, on croyait que plus on a de détonateurs et plus on a une grosse bombe, plus c'est gros et plus ça fera sauter.
Oui, mais c'est logique.
Alors que, comment fonctionne la bombe atomique? C'est exactement le contraire. Comment fonctionne la bombe atomique? C'est tout petit. Comment fonctionne? C'est qu'on te dit, le secret n'est pas dans la grandeur. Le secret est de trouver le bon élément qui est tout petit, le plus, enfin, à l'époque, c'est plus petit, mais il est plus petit encore. Cet élément qui est infime, tu vas le briser. Et quand tu vas briser cet élément, ça va faire une réaction en chaîne qui peut te faire sauter la planète. Donc c'est contraire à la logique, parce que avant on croyait que si tu veux faire sauter une ville, il faut une bombe qui est aussi grande qu'une ville, enfin une grosse bombe. Mais avec ça, on t'a expliqué non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui compte n'est pas la taille de ta bombe. Ce qui compte, c'est la qualité de ta bombe. Que si ta bombe elle est bien faite, tu peux te faire sauter. Donc imaginez que si c'est comme ça dans le mal, qu'Alva Romer a plus fort, c'est comme ça dans le bien. Que pour changer les choses, pour faire avancer les choses, pour faire tes chouvas, tu n'as pas besoin d'une grosse teshuvah qui va tout réparer. Tu as besoin d'une bonne teshuvah faite de la bonne façon. Bombe atomique. Et quand tu arrives à toucher le point qu'il faut pour faire teshuvah, avec un point, tu peux faire une réaction en chaîne qui change tout.
Oui, mais on n'a pas le mode d'emploi.
Le mode d'emploi, c'est la teshuvah.
C'est la Torah.
C'est la Torah.
Non, mais d'accord, mais vous dites, quand on fait, il faut bien tomber sur la teshuvah,
c'est ça,
etc. Mais je fais comment?
Ben, je fais teshuvah. Chaque fois que je fais teshuvah,
ça suffit pas.
Mais il faut qu'on l'explique. Attendez, on fait que commencer là. C'est quoi la teshuvah d'en haut? C'est quoi la teshuvah d'en bas? Mais ça, c'est le concept. Le concept qui veut t'expliquer comment ça fonctionne, pourquoi une teshuvah peut tout changer. Il te dit parce que tu ne comprends pas le potentiel que tu as en toi. Si tu poses une question comme ça, c'est que tu n'as pas compris ce que tu as comme potentiel. Tu comprends pas, tu n'as pas compris. Tu dis pourquoi la teshuvah va changer? Parce que tu n'as pas compris ce que tu as en toi. Tu crois que Stam, t'es comme un ange. Tu dis bon, il a cassé, il va réparer. Ça n'a rien à voir. T'es une autre dimension. T'as en toi une neshama qui a un pouvoir qui dépasse tous les anges. Et cette neshama, si juste t'arrives à appuyer un coup d'accélérateur, c'est incomparable avec tous les autres. C'est une mamache, une bombe atomique. C'est une puissance extraordinaire que tu as en toi. Et encore une fois, c'est pas la quantité qui fait, c'est la qualité. Tu es au bon endroit. Vous savez qu'une bombe atomique, ça peut tenir en une valise. Non, je vais pas vous faire des films maintenant. D'accord, c'est vrai. Une bombe atomique, ça peut tenir en une valise. Comment tu expliques ça? Comment t'expliques qu'une toute petite, c'est même pas une détonation, c'est une brisure. Comment t'expliques un tout petit élément qui va se briser, il va te faire sauter la planète? Comment t'expliques ça? Quelle est la logique?
Ça existe,
bien sûr, physiquement. Bien sûr, ça existe physiquement. Parce que ça c'est le chidouche qu'on te dit. On te dit, ce qui compte, c'est pas la quantité d'énergie, c'est la qualité de l'énergie que tu as. Alors, on va essayer d'expliquer maintenant comment ça fonctionne pour nous. Donc, Ava nishmat adam, ubi urainen. Alors non, je suis à... Donc on a dit, M. Benita, il a posé une question tout à l'heure, il a dit comment ça se fait que les anges sont appelés
Elohim.
Elohim. D'accord ? Quelle est l'origine du mot Elohim en hébreu ? L'étymologie. Elohim en hébreu, ça veut dire une force.
Une force.
Une force. Ok. Et donc, ce qu'il dit ici, après on va expliquer la différence entre les anges qui sont appelés Elohim et nous. Parce que rappelez-vous ce qu'a dit tout à l'heure le pasouk a dit que nous sommes une partie de Yudke Vavke, du tétragramme. Alors pour les anges, c'est jamais écrit qu'ils sont le tétragramme. Ils sont pas écrits qu'ils sont Adonai. Les anges, c'est écrit qu'ils sont Elohim. La différence est là. Quelle est la différence? Le nom Elohim représente l'expression d'Hachem. Elohim en hébreu, ça veut dire la force. L'expression. Donc c'est effectivement un ange et l'expression d'Hachem. L'expression de la puissance d'Hachem. Elohim, c'est la puissance, l'expression d'Hachem. Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, le tétragramme, c'est l'essence, c'est la création. Donc jamais on dira sur un ange que l'ange est Dieu. L'ange n'est pas Dieu.
C'est un vecteur.
C'est un vecteur, exactement, Chazak. L'ange, c'est un vecteur. Nous, on ne dit pas qu'on est Elohim. On dit, nous, les Abné Israël, les Neshama d'Israël, on est Hachem. Qui relèque Hachem. On est une partie d'Hachem. Mais ça, ça change tout. Hein?
L'enfant.
Il est quoi?
On est les enfants de l'enfant.
Oui. En fait, c'est un peu plus qu'un enfant. C'est plus qu'un enfant. Parce que c'est un point intéressant ce qu'il explique par rapport à l'enfant. Parce qu'on dit.
Relèque, oui. C'est...
Alors, c'est un très bon machal ce qu'il a donné Shimon. L'enfant. D'où provient l'enfant?
De l'union d'une femme et d'un homme.
Mm-hmm. D'accord? Très bien. Maintenant, on va parler de la relation qu'il y a entre le père et le fils. Qu'est-ce que le père a donné au fils?
50% de son patrimoine génétique.
Il a donné? Non, pas du tout.
Tout ce qui est blanc.
Le père, il a donné.
Une partie de son patrimoine génétique.
Il a donné donc une goutte de sperme dans laquelle il y a toute son essence. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'une personne sort de sa semence, il se sent vidé parce qu'il a donné une partie de son être, une partie de sa personne. Il a donné un concentré de son ADN, de tout ce qu'il a. Il a donné dans le corps de la femme. Après, la femme, elle prend cette goutte, elle la développe, elle en fait un bébé. C'est-à-dire que finalement, quand tu vas aller voir après maintenant cet enfant qui va naître, il va avoir une tête, il va avoir des mains, il va avoir des pieds, il va avoir des ongles, et même l'ongle du doigt de pied. D'où il vient cet ongle du doigt de pied? Il vient, il est lié de cette goutte. Seulement, la goutte n'était pas développée.
Ah oui.
À la base, c'était une goutte qui n'était pas développée. Oui. On est d'accord. Alors, c'est que c'est un machal, c'est un très très bon machal qu'a donné Shimon. C'est une parabole qui est amenée dans le Tanya, chapitre 2. Ben, il explique la relation qui est entre Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est comme un père et un fils. Sauf que, la différence qu'il y a, donc, c'est exactement comme un père et un fils, de la même façon que le père et le fils. Chaque parcelle du fils provient du père, in fine. De la même façon, chaque parcelle d'un juif provient d'Akadosh Baruch Hu. Mais le chidouche qui est l'innovation qu'il y a, c'est qu'en vérité, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est pas seulement que je proviens d'Hachem.
C'est Hachem.
C'est que c'est Hachem, exactement.
C'est Hachem.
Le fils n'est pas le père. Le fils provient du père, mais il n'est pas le père. Il y a le fils, il y a le père. Ah, c'est 7h, ça va. D'accord?
On s'arrête là.
Hein? On s'arrête là.
Attends,
j'ai dit le fils et le père.
Hein? Il y a
le fils, il y a le père. Ça s'arrête là.
Oui.
Ok. C'est deux personnes distinctes.
Mais écoute, alors, que là,
alors que là, on te dit, le fils c'est le père. C'est extraordinaire. On se rend même pas compte le potentiel qu'on a en nous, le potentiel de la chemin qu'on a en nous. Et ça, c'est le nom Yud Kevav. Qu'est-ce qu'il dit ici? À propos des anges, quel terme est employé? Le terme Elohim. En bas de la page 202. Velachen, c'est pour cela. Nikriu amalachim beshem Elohim. C'est pour cela que les anges sont appelés par le nom Elohim. Moshe Katouf, comme il est écrit, Hashem Elokechem, qui Hashem Elokechem, ou Eloke a Elohim. Comme il est écrit, car l'Éternel, votre Dieu, est Eloke a Elohim. Alors, littéralement, ça veut dire le Dieu des dieux. Bon, c'est quoi le Dieu des dieux?
Ouais.
Il y en a d'autres? Seulement encore une fois, le terme Elohim est mal traduit. Elohim, c'est pas un dieu, c'est une force. Donc Eloke, Eloki, c'est-à-dire que Dieu est la force des forces. Là, ça marche. Donc les anges, c'est une force, et Dieu est la force des forces. Ou bien, pareil aussi, on dit par exemple dans le Shabbat, on dit un psaume. Hodu, l'Eloke à Elohim. Rendez hommage au Dieu des dieux. Oh, il y a d'autres dieux? Non, parce que là, le terme Dieu est compris en tant que force. Donc les anges sont appelés Elohim. Les anges, c'est une force. Ou bien il y a un autre pasouk aussi qui dit dans Job, Vayavo ubne Elohim l'itetsev. Il est écrit que les anges, donc les fils de Dieu, on les appelle les fils de Dieu, ils sont venus se présenter. Pourquoi on l'appelle ? Encore une fois, quel terme on retrouve à chaque fois ? Quel nom d'Hachem on retrouve ? Elohim. Qui veut dire expression d'Hachem. Les fils, il n'y a pas de car la vitalité des anges provient de l'aspect extérieur du nom d'Hachem. Chez Iprinat à Otsiot Bilvat, qui ne sont que les lettres. Je vais m'arrêter un peu sur l'explique ici. Lorsque je parle, d'accord ? Pour parler, j'utilise des mots. Pour composer des mots, j'utilise des lettres. D'accord ? Maintenant, ces lettres, hot, comment on dit en hébreu une lettre ? On dit hot. L'étymologie du mot hot, c'est dévoilement. Dévoilement. Donc ça, c'est les anges. Les anges, si vous voulez, ils ont des otiotes, ils ont des lettres. C'est ça, Elohim. Elohim, c'est un dévoilement, c'est une force, un dévoilement. Ça, c'est pareil, lorsqu'on dit dans la paracha de Bereshit que Dieu a parlé, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une parole, c'est une quantité infime d'énergie, un filet d'énergie. Aval, mais, on termine avec ça. Nishmat Adam, l'âme de l'homme, Sh'im Prina Pnimiut Achayut, qui provient de l'aspect profond de la vitalité, Ichelek Shemavaye Baruch Hu. Là, c'est autre chose. C'est pas quelque chose qui est une énergie d'Hachem. C'est une partie d'Hachem. Kishem avayam moré al plumiut achayut. Chaque fois qu'on dit le nom Hachem, Yudke Vavke, le nom d'Hachem, le tétragramme, ça indique la dimension profonde de la vitalité, où les mal à prinata otiot, qui transcendent de loin la dimension de l'être. Bon, donc, vous avez vu, pour l'instant, on touche à des notions qui sont très profondes. Et je ne sais pas si vous avez tout compris. Je ne sais pas si on a encore tout compris, en tout cas. Ça, j'espère que vous avez tout compris. Mais en tout cas, il faut toujours, quand on arrive à un cours de Tania, il faut toujours arriver à une conclusion. La conclusion à laquelle on arrive aujourd'hui, c'est qu'on comprend que la Neshama qui est en nous est un moteur qui est hors pair, qui dépasse toutes les autres créatures, y compris les Ganéder, les anges, etc.
Supériorité.
C'est même pas supériorité, c'est qu'il est, il est d'une autre ligue. C'est pas qu'un il va à 100 km/h, l'autre il va à 1000 km/h. C'est une autre ligue. Un, c'est une expression d'HM, l'autre c'est HM. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas le comparer. Donc si tu commences à comprendre le moteur que tu as en toi, tu peux comprendre que ce moteur extraordinaire que tu as en toi, si le moteur est extraordinaire, il doit avoir des facultés extraordinaires. Et ça, c'est ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, dans le prochain cours. On va commencer à développer quelles sont les facultés de la Neshama. Et progressivement, on va comprendre comment la Neshama, en vérité, elle a plus d'un tour dans le sac. La Neshama, elle peut te changer une vie en une seconde. Et quand on te dit qu'une personne, c'est là la direction qu'on va prendre, lorsqu'on te dit qu'une personne fait te souvenir en un instant, c'est pas seulement qu'en un instant, il a un casier judiciaire qui est vierge. C'est qu'en un instant, il peut changer.
Il peut changer.
Ça, c'est énorme, ça. En un instant, un juif peut changer. D'un bout à l'autre. De rachat complet à un tzaddik complet. Ça, c'est pas possible.
Oui,
ça, un ange n'est pas capable de faire. Même un ange, il peut pas faire ça. Je peux pas me transformer en un instant, pardon, d'être d'un rachat un tzaddik. Parce qu'il n'a pas l'arme atomique. Il n'a pas en lui l'étincelle d'Hachem même. La Neshama, qui est l'étincelle d'Hachem même, en une seconde, elle peut tout changer.
Enfin, il n'en a pas besoin, puisque lui...
Oui, lui, il ne fait pas. Je comprends.
Dans un autre rôle, dans une autre dimension.
Évidemment. Dieu ne l'a pas créé, parce qu'il n'a pas besoin. Et je suis d'accord. Mais d'un autre côté, ça nous permet de comprendre le potentiel qui est en nous. Alors c'est vrai que ça fait peur quand on dit ça, parce qu'on se dit, attends, j'ai un potentiel tellement fort, qu'est-ce que j'en fais ?
Mais c'est compliqué pour lui.
Quoi ?
On peut faire une petite... Mais Ferrari devant notre...
Non, c'est la réalité.
On est des pouvoirs en nous, mais...
C'est la réalité.
On les a pas encore...
Ça veut dire qu'en vérité, chacun de nous peut changer le monde. Déjà son monde.
Juste une petite question. Pourquoi Dieu envoie des anges qui sont inférieurs à nous?
Non, c'est, j'ai compris. Alors, tu vois, j'emploierai pas le terme inférieur. Parce que quand tu emploies le terme inférieur, ça veut dire que déjà que tu les compares. Tu dis que lui il est plus grand, lui il est plus bas. On peut même pas comparer.
Oui, mais pourquoi des êtres? Ben oui, alors comment je vais dire?
Ben, l'ange est une expression d'Hachem.
D'accord, mais ils arrivent à tuer des hommes.
Oui, mais l'ange est une expression. De la même façon que Hachem, il aura, de la même façon que moi, par exemple.
Moi, je peux pas tuer un ange.
J'ai compris. Mais de la même façon que, par exemple, j'ai envie de faire une marque dans le mur. Alors, je prends une flèche, je vais envoyer. Donc, cette flèche est une expression de moi qui va aller toucher le mur. Parce que j'ai pas envie d'aller moi toucher le mur. Donc, ça, c'est l'ange. L'ange, c'est la flèche. Mais là, on parle d'autre chose. On te dit, le Neshama d'Israël, c'est pas une flèche que Dieu envoie. C'est Dieu lui-même qui est là. C'est autre chose. C'est-à-dire, j'ai une capacité divine qui est en moi.
Et on s'en sert pas.
Ça va plus loin.
Hein?
Comment on s'en utilise pas.
Et si, on s'en sert. Je compte faire les mises.
C'est vraiment une partie de Dieu, quelque part.
Puisque oui, 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 à la limite, oui.
Un bouteille, à méditer.
Il va libérer.
Oui, grave.
Ah oui.
Il va toucher une partie de Dieu.
Mais vous comprenez, moi, j'aime beaucoup ce chapitre, vous savez pourquoi, je me rappelle quand on l'avait étudié à la Yeshiva. J'aime beaucoup ce chapitre parce que dans ce chapitre, si vous voulez, l'Admor HaZaken, tu vois, il te nettoie le cerveau. Ça veut dire, jusqu'au chapitre 3, on croyait qu'on gérait, on comprenait, tu vois, on a tout fait, on avait les calculs, tu vois, tac, 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 tac. Non, mais c'est vrai, jusqu'au chapitre 3, on maîtrisait la situation. C'est-à-dire, tu me dis, voilà, tu es chez moi en un instant, tac, tac, on a compris, les jeunes, on a fait le nombre de jeunes, combien il fait, fois 3, ta, on arrive, on a fait les calculs, on était refait, tu vois, on dit, c'est bon, alors, tant ton nombre de jeunes, on remplace par la Tzedaka. Et là, quand tu ouvres, j'ai vu 3-4, moi, j'ai dit, attends.
Ouais,
bon, c'est bien, t'as compris comment on fait, c'est bien. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. T'as oublié, pourquoi, comment ça marche?
Il faut dire qu'est-ce qu'on a, pourquoi,
oui. Et là, il te dit, tu peux pas répondre à cette question tant que t'as pas compris qui tu es. Une fois que t'as compris qui tu es, là, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Et ton histoire, d'où tu proviens. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui en expliquant les schémas. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, Bezrat Hashem, demain, je vais chez le Rabbi. A priori, pour l'instant, lundi prochain, il n'y a pas cours. Je ne suis pas là. J'ai essayé de trouver un remplaçant. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Donc, s'il y a cours, je vous tiens au courant par SMS.
D'accord.
Pour l'instant, il n'y a pas cours.
Voilà. T'es filard, hein?
Oui, bien sûr.
Oui, présent.
Présent. Qui a Mbappé vite?
Tout le monde.
Let's go,
allez.
On est bien.
On rechève. On est présent.
Merci.